bonjour à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Le quart d'heure de santé produite par le docteur Guillaume.
Bonjour.
Alors docteur, aujourd'hui vous allez nous parler...
De la victimologie.
C'est-à-dire ?
Eh bien la victimologie est une discipline médicale qui concerne toutes les victimes du fait d'un acte causé par autrui.
Alors si on peut en donner une définition ?
Eh bien, il y en a plusieurs. Le traumatisme d'abord, c'est l'action externe, violente, soudaine, inattendue, qui provoque un dommage corporel. Mais ce sont aussi des lésions provoquées par un agent extérieur. Je vous rappelle, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Ainsi donc Luc, au chapitre 10, verset 30, décrit une agression typique. Quant au psychotraumatisme, il est vécu dans la terreur de l'impuissance. C'est une effraction du psychisme qui déborde les défenses et qui sont dues à un événement menaçant la vie ou l'intégrité physique ou psychique de soi et d'autrui. C'est assez compliqué pour définir. Quoi qu'il en soit, il y a une situation, c'est la situation de confrontation à la mort, que ce soit la sienne ou celle d'autrui, ou bien encore une menace à l'intégrité physique, c'est-à-dire une blessure grave, un traumatisme crânien. Bref, c'est un stress énorme qui dépasse les capacités d'adaptation.
Alors, quel peut être cet événement traumatisant ?
Bon, l'événement traumatisant est tout à fait variable dans sa gravité. Ce peut être une incivilité, ce peut être une agression verbale, l'obligation d'une conduite dégradante, une agression physique. Mais on retrouve toujours la notion de confrontation avec la mort, avec la guerre. C'est un génocide, un attentat, une torture, un deuil. Ce peut être aussi une catastrophe naturelle, une catastrophe industrielle, un accident de voie publique, un viol, un inceste, une prise d'otage. On en rapproche aussi, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui, les épisodes répétitifs d'une maltraitance ou d'une atteinte à la dignité. Mais la plupart du temps, ce sont des agressions, qu'elles soient à main nue, à l'arme blanche ou même avec des armes à feu.
Alors, quels sont les dommages qui sont provoqués par un traumatisme ?
Alors, les dommages sont évidemment premièrement physiques, mais pas tout le temps. Le dommage dont nous parlons aujourd'hui, c'est le psychotraumatisme. Le psychotraumatisme, c'est une brèche dans l'organisation psychologique de l'individu. C'est une blessure de l'âme et de la dignité. Le ressenti subjectif dépasse les capacités de gestion de la situation. Et il n'y a pas de parallélisme entre les gravités du dommage physique et du dommage corporel. Et du dommage psychique, voulais-je dire. Les dommages sont éventuellement additifs, mais pas obligatoirement.
Alors, il peut y avoir toutes sortes de victimes, en fait, au moins deux sortes de victimes.
Alors, la victime, c'est celle qui est concernée par l'événement psychotraumatisant. La victime directe est la première concernée, c'est le blessé ou le témoin. Et la victime indirecte, c'est quelqu'un qui est impliqué par les conséquences du dommage. Ce peut être un proche de la victime directe ou c'est un impliqué par ricochet. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu l'accident, mais qui en subit des conséquences. D'accord. Et à qui on l'a raconté. Et
donc, dans le traumatisme subi par la victime, alors, il peut y avoir plusieurs phases.
Alors, le psychodrame présente diverses phases successives. Il y a d'abord la réaction avant l'événement. Il peut apparaître dans la prise de conscience de l'inéluctabilité de l'événement. C'est le cas du conducteur de train qui voit un candidat au suicide qui marche à sa rencontre sur la voie, ou ce peut être aussi un imprudent qui traverse. Quant à l'effet psychotraumatisant, il n'est jamais nul en ces circonstances pré-accidentelles, malgré la préparation professionnelle que l'on donne par exemple au conducteur de train pour qu'il soit au courant de ces cas de figure. La compréhension de la situation après le temps de réaction de une seconde environ, la connaissance des conséquences de l'accident imminent et inévitable génère une peur et un effroi irrésistibles, irrépressibles. Mais le comportement immédiat pré-accidentel peut être aussi une sidération ou alors une excitation excessive, voire un comportement aussi adapté dans un état d'hypervigilance. À ce moment, tout peut s'observer.
Alors, quelle réaction peut avoir la victime ?
La réaction immédiate peut être adaptée après l'événement, malgré le psychotraumatisme subi. C'est un paradoxe que la réaction soit adaptée. Les automatismes de survie sont conservés, les gestes professionnels sont accomplis, les initiatives pour porter secours à autrui subsistent. Bref, cette absence paradoxale d'affect ne préjuge en rien de l'évolution pathologique parce que le comportement adapté n'exclut pas d'une part une amnésie des faits, une perte de la mémoire et des gestes de la période immédiatement post-accidentelle. Bref, l'évolution après la réaction immédiate est imprévisible, imprédictible.
Nous allons faire une pause musicale.
Il y en a du monde, mais moi j'y suis pas, non. Dans les lignes de ta main, des papillons, des tigresses, des requins, des souris, des poussins, des arlequins, toutes ces vies dans ta main. Mais rien de moi sur ton chemin. Allez, viens, j'ai pas besoin qu'on me colle un destin. Des étoiles froissées sous ta peau, oui, dans les lignes de ta main. Des grains de sucre et des miettes de pain. Compte pas sur moi. Comme un moineau dans ta main, manger au creux de ta vie. Allez, viens, c'est pas grave, oublie les serments pour la vie, ça sert à rien, ça sert à rien.
Nous sommes dans l'émission Le quart d'heure de santé. Le docteur Guillaume nous parle de la victimologie. Et vous venez, docteur, de nous parler de la réaction immédiate après une agression.
Nous avons parlé de la réaction immédiate adaptée après l'événement du psychotraumatisme. Maintenant, nous parlons à la réaction immédiate, mais dépassée, au stress post-traumatique. Cela apparaît en quelques minutes ou quelques heures après un événement traumatisant. La victime présente une peur, un effroi, une terreur, une stupeur, une hébétude, une sidération, une détresse, une désorientation, une inhibition devant son impuissance. Mais d'autres victimes expriment le désespoir, la colère, ils sont agités, excités, ou alors ils ont une fuite panique. Toutes ces conduites relèvent d'un automatisme en état second, alors que les signes physiques accompagnent aussi ces comportements. On appelle ça le syndrome neurovégétatif qui associe la pâleur, le tremblement, la fréquence cardiaque qui s'accélère. On observe des sueurs, des tremblements, éventuellement de l'hypertension artérielle, des nausées, une crise d'asthme, d'eczéma. Cela peut donner des pathologies objectives. Quant à la réaction différée, la crise émotionnelle différée, elle est inconstante. Elle comporte des pleurs, des prostrations, un sentiment de honte et de culpabilité qu'on retrouve souvent. Parfois des cris et des infectives. Quoi qu'il en soit, il y a une dévalorisation de soi.
Et à la longue, alors ?
Alors, à la longue, c'est-à-dire plus tard. Oui. On a le syndrome de stress post-traumatique. Ça, on appelle ça aussi la névrose post-traumatique, qui, elle, apparaît plus tard, classiquement après le troisième mois, mais parfois plusieurs années après la confrontation avec l'événement. Le signe pathologique est la réminiscence, la réviviscence, c'est-à-dire que le cauchemar est le sentiment de revécu de l'événement initial. C'est un sentiment qui empêche l'endormissement, qui trouble le sommeil, qui provoque des réveils en sursaut. Il crée des comportements phobiques, c'est-à-dire des comportements d'hypervigilance, des états d'alerte. Les gens sont toujours en alerte de l'attente d'un événement pathologique. Les conduites d'évitement. Les gens ne veulent plus prendre le trottoir de droite parce qu'ils ont été accidentés là. Les angoisses, des dépressions, des pertes de confiance. Bref, le reproche aussi d'être en vie et une incapacité d'affection. Toutes ces personnalités sont, eux, particulièrement sensibles à ce genre d'évolution. Et la durée de cette phase chronique est durable, prolongée plusieurs mois, parfois plusieurs années, et l'évolution est imprévisible.
Alors justement, comment se fait-elle cette évolution ?
Eh bien, l'évolution, quelle que soit la symptomatologie antérieure, y compris la parfaite maîtrise de soi initiale, conduit à un mauvais souvenir, à la crainte d'une nouvelle agression dans un premier temps, et plus tardivement, à l'enquistement du souvenir, c'est-à-dire qu'on garde le souvenir mais on n'y pense pas tous les jours, à l'oubli ou au pardon. C'est le cheminement le plus fréquent en un trimestre, en un ou deux ans pour certains. mais certains traumatisés gardent un comportement de revendication, de réparation juridique et de vengeance.
Alors comment intervenir cette fois-ci vis-à-vis de la victime ?
Les besoins initiaux du psychotraumatisé sont bien codifiés. Les soins médicaux, des blessures physiques sont prioritaires et sont ici exclus de notre propos, bien sûr. La victime psychotraumatisée recherche une zone de sécurité. Elle recherche un contact, un lien social, un soutien en accompagnement. Elle demande une écoute, une reconnaissance de son état de victime. La victime souhaite rétablir aussi la relation avec sa famille et son milieu professionnel et le plus rapidement possible. Il souhaite rentrer chez lui. Il y a deux choses à faire. On appelle ça le defusing. Le defusing est un soin psychique de la première heure. C'est un terme anglais que je ne saurais vous traduire en français. Il vise à prendre en charge le blessé psychique en faisant verbaliser les sentiments ressentis et en accompagnant sa resocialisation immédiate. C'est donc le rôle empathique du post-médical avancé ou bien, à défaut, d'un bon samaritain de proximité. Quant au debriefing, c'est aussi un mot anglais, c'est un soin psychiatrique. Il est réalisé par un psychiatre ou un personnel médical spécialisé. On le propose vers la 24e heure, ou un petit peu plus tard. Il fait verbaliser les faits, le ressenti immédiat des événements. L'évaluation du défoulement obtenu est important de savoir si le debriefing est utile. Éventuellement, le psychiatre prescrit un traitement médicamenteux, un anxiolytique, un hypnotique, d'autres produits nécessaires. Bref, c'est à ce moment-là aussi qu'on établit une stratégie de suivi thérapeutique, mais c'est le psychiatre qui s'occupe de cela. C'est un soin médical.
Et alors le traitement au long cours ?
Il est de la compétence d'un médecin expérimenté. Outre les médicaments allopathiques dont nous avons parlé, peut-être provoquer la psychanalyse et diverses thérapies, c'est assez compliqué, je n'insiste pas. Quant à la reconnaissance du statut de victime, l'accompagnement médico-juridique, la prise en charge sociale, tout ceci est un élément favorable pour une réintégration rapide, pour une reprise d'activité et pour la restitution de l'estime de soi et la revalorisation du soi après l'épreuve.
Est-ce qu'il y a une prévention ?
La prévention primaire recense l'apprentissage des situations professionnelles accidentées. C'est les formations du conducteur de train ou de vigile. Il paraît que rédiger une lettre avant une situation dangereuse serait préventive. C'est l'expérience de la guerre de 14-18 qui a lancé cette idée. Et la prévention secondaire, le débriefing, est de grande utilité. L'accidenté individuel psychologiquement choqué doit prendre l'initiative de ce soin médical si c'est un accident personnel sans poste médical associé.
Alors en conclusion, docteur.
Notre condition humaine inclut la souffrance physique et la souffrance psychique. Notre mémoire évolue avec le temps et va de la souffrance à l'oubli dans le meilleur des cas. Et je cite ici pour Radio Grand Ciel, le pardon, bien sûr. Amis fidèles, au revoir et à bientôt.